Donc, on vient d'avoir un bel exemple de ce dont on va parler, c'est-à-dire comment jouer les textes de la Garce, comment les acteurs le jouent, comment ils le prennent en bouche, comment ils le prennent en tête encore, et comment les directeurs d'acteurs s'affrontent avec ça et à travers les textes de Jean-Luc Lagarce. Alors, je vais présenter un peu les personnes qui sont autour de moi. Donc, je commence par d'un côté et de l'autre. Donc, à l'extrême gauche, Gilles Morel, qui a travaillé dans trois spectacles de Jean-Luc Lagarce. Le premier, qui était au théâtre de la Madeleine, c'était la pièce de Saxe-Roman, qui a été un échec retentissant.
Oui, c'était le dernier, en fait.
C'était le dernier.
C'était le dernier. Le premier, c'était préparatif d'une noce à la campagne.
C'était préparatif de noce à la campagne.
Ensuite, le second était Hollywood. Et le dernier, donc, Saxe-Roman.
Et le dernier, c'était, voilà. Oui, alors j'ai parlé du, parce que c'est celui qui était le plus marquant hélas, par la carrière de Jean-Luc, c'était le deuxième rapport avec Paris qui a été catastrophique, mais finalement peut-être, bénéfique, mais enfin, ça c'est un autre sujet. Ensuite, Elisabeth Mazef, qui a joué sous la direction de Jean-Luc, alors, Gilles a joué des pièces de Jean-Luc sous la direction de Jean-Luc. Elisabeth a joué sous la direction de Jean-Luc, mais pas des pièces de Jean-Luc. Elle a joué la cantatrice chauve, qu'elle rejoue quand elle ne joue pas les illusions comiques et quand elle n'est pas à faire des lectures ou des débats ou à donner des interviews. Elle joue aussi la cantatrice chauve.
Mais je suis libre au printemps.
Mais elle est libre, elle a quelques dates encore qui restent, voilà. Donc elle a joué la cantatrice chauve, elle rejoue aussi, elle a joué aussi le malade imaginaire avec Jean-Luc, et après elle a joué Nous les héros sous la direction les solitaires intempestifs avant, qui est pareil, c'est un spectacle de Jean-Luc, mais c'est en même temps un collage de textes qui ne sont pas de Jean-Luc, mais qui deviennent quand même du Jean-Luc Lagarce, hein, d'une certaine façon. Voilà. Et ensuite, après, elle a joué avec Olivier Py, Nous les héros. Et dans les illusions comiques, il y a aussi, alors là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a quand même un certain rapport profond avec Lagarce dans ce qu'elle joue. Le spectacle que vous pouvez voir ce soir, vous avez peut-être déjà vu ces derniers temps. Christine Joly a joué dans Hollywood,
oui,
et dans Lulu.
Non. Dans Les Solitaires Intempestifs.
Voilà, ça j'ai oublié. Voilà, oui, j'ai...
Dans Les Solitaires. Sous la direction de Lagarce les deux fois.
Oui.
Et là, je répète Le Pays Lointain.
Avec Dana. Voilà.
Au festival d'automne.
Au festival. Alors, Michel Fouché, que vous venez de voir dans dans Les Prétendants, sous la direction de Jean-Pierre Vincent, c'est la seule, oui. C'est la seule rapport
de jeu, oui.
Voilà. François Béreur, alors là, je ne vais pas faire la liste, elle est trop longue, puisqu'il est un collaborateur de Jean-Luc Lagarce très tôt, comme acteur pendant longtemps, et puis comme collaborateur très proche, et puis depuis la mort de Jean-Luc, comme héritier littéraire testamentaire, enfin c'est lui à qui Jean-Luc a confié l'héritage littéraire de son œuvre, voilà. Et qui aujourd'hui ne joue plus, sauf dans La Cantatrice Chauve, parce qu'il fait de temps en temps le pompier dans La Cantatrice Chauve, et je vous conseille le détour. Sinon, il met en scène régulièrement, mais il en a parlé hier, des pièces de Jean-Luc Lagarce. Bon, donc, alors, jouer les textes de Jean-Luc, donc j'ai peut-être envie qu'on commence par interroger ceux qui... ont joué, parce que on jouait des textes de Jean-Luc sous la direction de Jean-Luc. On a vu dans les interventions de ce matin comment on vient de voir à l'instant dans le film comment tout le ce que disait Jean-Pierre Vincent là quand il parlait de l'écriture des personnages qui était au cœur des deux interventions de ce matin aussi. Et donc, évidemment, ça suppose un travail sur le jeu très particulier. Alors ça, je pense que c'est dans tous les cas, mais ce que je voudrais peut-être qu'on évoque d'abord, dans un cas particulier, c'est comment Jean-Luc vous dirigeait dans ses propres textes. Qui veut en parler ?
Gilles.
Ouais, je vais commencer. Donc, ce qui était, comme tu le rappelles, Jean-Pierre, tout ce qui a été dit ce matin est d'abord tout à fait pertinent. Même pour moi qui ai travaillé sur les, on va dire, sur les premiers textes, puisque les textes et les spectacles sur lesquels j'ai travaillé avec Jean-Luc datent de 83, 80, ou 84, 85, donc assez loin. Par rapport au développement qu'aura sa carrière d'auteur et de metteur en scène par la suite. Mais on avait déjà à cette époque-là, je dirais, tous les embryons de ça. C'est-à-dire d'une proposition à l'acteur qui est délicate dans la mesure où elle l'alimente pas seulement, enfin, elle l'alimente assez peu au niveau de l'action, au niveau du registre dramatique, et elle lui confie une espèce de narration, donc ce que les universitaires appellent le registre épique, où votre personnage se fabrique au fur et à mesure des histoires qu'il raconte. Donc naturellement, ça c'est une proposition assez intéressante parce que l'action qui peut éventuellement sortir du texte et du travail de ce texte, justement, elle prend sa naissance très précisément à l'intérieur du texte. Et donc Jean-Luc était pas du tout un metteur en scène dirigiste, hein, c'est-à-dire que il nous conviait. Alors c'est intéressant parce que en fait il nous conviait sur deux thèmes qui sont les siens. Il nous conviait pour faire du théâtre et il nous conviait dans une espèce de famille qui était la compagnie de la roulotte. Donc on retrouvait deux thèmes dans la manière même de fabriquer ça. On retrouvait deux thèmes qui sont très chers à Jean-Luc, qui est celui du rapport à la famille, réel ou choisi, et puis celui qui est le rapport au théâtre. Et donc, pour les souvenirs que j'en ai, Jean-Luc nous accueillait dans sa famille de théâtre, qui était la compagnie de la roulotte, et nous mettait entre les mains ce texte, hein, nous alimentait de beaucoup d'histoires, de beaucoup d'anecdotes, puisque Jean-Luc était quelqu'un qui aimait dans la vie raconter des anecdotes, il en connaissait des quantités absolument exceptionnelles et énormes. Et donc il nous alimentait d'histoires, et puis il avait dessiné assez souvent une espèce de trame d'action parallèle qui pouvait être pour un spectacle un rapport à la danse par exemple, pour un autre spectacle une proposition d'énonciation qui était le pique-nique, et puis chacun de nous, comédiens, comédiennes, on se lançait dans cette aventure, quoi, avec un Jean-Luc Lagarce qui était extrêmement à l'écoute, je dirais plus à l'écoute qu'en proposition, ou en tout cas qui s'alimentait de l'écoute de nos propositions pour nous les renvoyer. Donc c'était un dialogue tout à fait intéressant avec je dirais une façon sûrement de sa part de distiller de la légèreté et de l'ironie là où parfois on était, nous en tant que personnage, enfin je sais pas, le personnage de Patobi par exemple avait une charge assez sombre etc. Mais le travail de Jean-Luc était aussi un peu d'alléger tout ça, quoi. Mm-hmm. Et pour nous, c'était de réussir à trouver dans ce parcours que proposait l'écriture de Jean-Luc, de trouver les ruptures, de trouver les différents niveaux, hein, comme Vincent le précisait à ce moment, à l'instant, il y a dans le texte donc des formulations, des reformulations, des échecs de narration qui sont parfois ceux de l'auteur, mais qui sont aussi parfois ceux du personnage qui patauge à reconstituer l'histoire qui a été la sienne ou à l'inventer en même temps. Donc tout ça, c'est quelque chose qui demande aux comédiens une souplesse assez grande, une virtuosité assez particulière, qui est que entre le début d'une phrase, enfin entre le début d'une réplique et la fin de cette réplique, il y aura eu probablement 3 ou 4 niveaux de texte qui se seront empilés, dont il faut connaître les ruptures et sinon les marquer, du moins les avoir expérimentés à l'intérieur.
Est-ce que l'auteur Jean-Luc Lagarce demandait, est-ce que le metteur en scène Jean-Luc Lagarce demandait à l'auteur des modifications dans son texte quand il y avait des problèmes dans le jeu?
J'ai pas le.
C'est du Lagarce.
Ça, hein. C'est du Lagarce, par exemple. J'ai pas le souvenir de texte qui a été. Je sais pas, François, tu te rappelles aussi peut-être.
Ce qui était assez remarquable, c'est que je ne l'ai, à part quand il sortait un texte et qu'on répétait, il corrigeait des fautes d'orthographe ou d'accord. Ouais, mais je ne l'ai jamais vu en 15 ans modifier une phrase dans un texte.
Ouais. Il coupait, c'est ce qui me semblait aussi.
Il coupait, c'est-à-dire par exemple Hollywood, par exemple, ou les règles du savoir-vivre, il coupait des passages en disant bon ben ça fonctionne pas, qui était souvent lié d'ailleurs au projet même de mise en scène. Mais par exemple sur Hollywood, il gardait ces coupes-là. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que je l'ai vraiment jamais vu couper une phrase ou revenir sur une phrase ou quoi que ce soit. Jamais.
Mm-hmm. D'ailleurs, entre la version radiophonique des règles du savoir-vivre qui a été enregistrée par
Daniel Lebrun,
Et la pièce qui a été jouée par Mireille Herzmeyer, qui est pas là aujourd'hui parce que elle est sur la tournée de la cantatrice, elle n'arrive pas à se faire remplacer comme Elisabeth, et qui aurait évidemment sa place autour de cette table, hein, ça va de soi. Eh bien, c'est pas la même version, c'est la version publiée sous l'autorité de Jean-Luc. Donc c'est lui qui a assumé complètement ses coupes, par exemple. Donc c'est important quand même de dire ça. Hein, c'est pas un détail. Je pense que l'écriture de Jean-Luc, il pouvait couper des pans, des répliques, mais il n'y a jamais de réécriture, jamais de réécriture. C'est-à-dire que quand le texte est livré, il est livré pour l'éternité. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, de très important. Et pour les acteurs, c'est un texte sacré, quoi, hein, d'une certaine façon. C'est un texte qui est écrit de façon immémoriale. Donc il y avait ces couplets. Est-ce qu'il était, tu as dit tout à l'heure qu'il était peu directif, mais qu'est-ce qu'il vous disait quand même, Christine?
C'était vraiment un voyage de travailler avec Jean-Luc, c'est-à-dire que quand on commençait à travailler avec lui, on avait l'impression qu'on allait traverser l'Atlantique. On partait sur une sorte de navire, ou alors on traversait un paysage de dunes. Et une dune en cachait une autre, qui en cachait une autre. C'est-à-dire qu'on sentait qu'on partait avec à l'aventure, ou comme disait très justement dans le film qu'a fait Michel Fouché, Jean-Pierre parle de on est des artistes, des acteurs écrivains, et l'écriture nous fait marche, il y a une marche comme ça, il y a une marche en avant, et l'écriture a des accidents qui sont un peu qui vont permettre des interstices où le courant de la vie va s'infiltrer et où la vie va nous rattraper. Comme quand on voit à la télévision, par exemple, des gens qui se mettent à raconter quelque chose et tout d'un coup, ils revivent un peu. Il y a déjà de ça, mais on est très vite rattrapé par la construction de Jean-Luc qui est tellement forte, c'est-à-dire que c'est comme des ponts, c'est-à-dire que il y a tout d'un coup une histoire qui va commencer sur une scène, qui va se prolonger trois scènes plus tard, et puis un personnage va dire une réplique qui aura à voir avec une scène qu'il y avait il y a trois. Donc moi je trouve que c'est très physique l'écriture de Jean-Luc, dans le sens que on est tout le temps au cœur de paysage. La dernière image qu'il donne de l'aqueduc, moi je trouve que son écriture c'est comme des aqueducs. On est tout le temps dans des pensées et en même temps on part loin, et c'est comme un marcheur qui sait où il va. Mais à un moment, il va prendre ce petit pont avec ce petit escalier, il va longer l'eau, puis après, il continuera, il ira toujours à son endroit. Mais il va prendre des sentiers. Donc voilà, chaque fois que je repense au travail avec Jean-Luc, j'ai des images très physiques et très organiques, très spatiales. Parce qu'hier, à propos de cette scène de l'aqueduc où il voudrait pousser ce cri, Olivier Py disait c'est un cri joyeux, il est en état de grâce. Je suis pas du tout d'accord parce que c'est il y a pas une ville dessous.
Mais il est pas là pour se défendre, Christine.
Oui,
c'est
mais
moche.
Ouais, c'est pas grave. Je m'inquiète pas pour lui.
Jean-Luc non plus.
Je m'inquiète pas pour lui. Jean-Luc si, il est là. Jean-Luc. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que dans la scène de l'aqueduc, c'est une vallée. Il y a pas la ville en dessous. Il est seul, c'est un moment d'extrême solitude, et c'est un lieu où il y aurait une amplification terrible de sa voix. Trop pour lui. Et je pense que son cri de désespoir et son cri à ce moment-là de défoulement, parce que c'est un personnage qui se défoule, et on le voit bien dans le, on le voit bien dans la, dans le passage que Michel nous a offert là. Il y a une férocité dans, dans les liens humains qui est extraordinairement drôle, mais qu'on vit tous continuellement chaque jour. Et je pense que tu demandais, alors je reviens à ta question, tu disais qu'il, son regard, c'est quelqu'un qui observait extraordinairement les gens tout le temps. Donc, il était très, très conscient, comme Tchekhov, enfin, de la nature humaine, des relations humaines. Et ça, il savait en parler avec toute la tendresse qu'il faut pour parler de la férocité. Mm-hmm.
Voilà. Mais quand il vous dirigeait, qu'est-ce qu'il disait ? Sur quoi portaient ses indices ? Est-ce qu'il parlait, d'ailleurs ? Est-ce qu'il parlait beaucoup ? Est-ce qu'il observait beaucoup ? Il ne disait pas grand-chose ? Ça, les avis divergent là-dessus.
Moi, j'ai pas de souvenir de quelqu'un qui parle beaucoup.
Oui, justement.
C'est non, je crois pas non plus.
Il
distillait des anecdotes. Il distillait, il alimentait. Il nous alimentait. Généralement, avant le début d'une phase de travail d'une scène, et on avait, du fait même de l'écriture de Jean-Luc, souvent des monologues. Enfin, on abordait ça tout à l'heure. Il y a le monologue est une des formes de Jean-Luc, ou des dialogues qui d'un seul coup s'éloignent, perdent leur interlocuteur et deviennent monologues. Donc quand on travaillait comme ça dans des textes sur des périodes un petit peu longues, il nous distillait, il nous alimentait d'une anecdote, d'une histoire ou d'une petite proposition de positionnement, ou parfois c'était l'entrée qui était posée, et ensuite on se lançait, et ensuite on pouvait compter sur l'acuité de son regard pour, dans l'hypothèse où quelque chose d'intéressant sortait de l'improvisation ou du voyage dans le texte, pour qu'il soit noté et soit le sujet d'une nouvelle proposition ou d'une nouvelle anecdote, ou enfin ça avançait comme ça. Ce que dit Christine est tout à fait juste, quoi. C'est des, dans le processus même de création, c'était un voyage, quoi. C'était un voyage. On avançait dans un texte où effectivement, il y a de façon très régulière des accidents. Il y a des accidents qui bloquent complètement, pour certains, le fil et le parcours qui était lancé. D'autres qui le dévient radicalement. D'autres qui sont simplement le chaos d'une route, qui fait que le verre ou la tasse de café que vous aviez à la main se retrouve sur votre pantalon, et que ça peut plus, le voyage peut plus continuer comme il l'était auparavant. Mais c'était comme ça une espèce de voyage, et quelque chose de, enfin.
Oui, mais il chargeait nos valises. Hein.
Absolument.
Vraiment, il
c'est
chargeait
ça.
Nos valises.
C'est
il
ça.
Est généreux comme tout, et comme il avait une grande culture cinématographique, littéraire, tout ça, il nous racontait plein de films. Enfin, chaque fois, il nous renvoyait en fait ce qu'on faisait aussi avec des modèles d'acteurs de cinéma. Où j'ai retrouvé un vieux cahier d'Hollywood où il nous donnait carrément des modèles qui étaient assez impressionnants. Alors on se baladait d'un modèle à un autre, de films, de livres. On était très alimentés. Ça, c'était mm-hmm. ça pour les acteurs, c'est cadeau, quoi. Mm-hmm.
Mm-hmm. François, toi qui l'as connu sur un temps très long, est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là, dans la direction du jeu, dans la façon dans son rapport aux acteurs?
Ben, je crois qu'il y a deux choses différentes sur effectivement ses textes et les textes des autres. Donc je pense que, il me semble que c'était toujours quand même assez différent. Mm-hmm. Ouais, je mets des bémols parce que mes souvenirs. C'est-à-dire que je pense que il parlait beaucoup plus sur les textes des autres. Et je trouve que sur ses textes, il parlait pas de ses textes. Enfin. Je plaisante en disant, des fois, quand même, j'aurais quand même bien voulu enregistrer, mais, ce qu'il disait. Mais en fait, je crois qu'il y a quand même, je me souviens d'une conversation avec lui, où c'était pénible, parce qu'il voulait rien dire. Il voulait rien dire. Vraiment. Donc, la manière de diriger, ses propres textes et les autres textes est très différente. C'est-à-dire, notamment, sur ses propres textes, il travaillait pas sur la structure. Enfin, a priori. C'est-à-dire qu'il n'était pas, paradoxalement, alors pour moi c'est extraordinaire parce que, en travaillant sur ces textes, c'est-à-dire que j'ai un rapport à ces textes totalement presque inverse du rapport que j'avais sur ces textes avec lui. C'est-à-dire que quand on travaillait avec lui, effectivement, je suis vraiment d'accord, c'est comme un voyage, une espèce de découverte d'un monde, voilà, qui s'appuyait pas sur la structure de la phrase, alors que je sais, comme metteur en scène, vraiment, je travaille avec les acteurs quasiment que sur la structure de la phrase, sur la rupture, sur le rythme, sur la virgule, ce que c'est, enfin voilà, la redite, etc., enfin tout ce qui a été dit, voilà. Et lui, il c'est comme si ça, très étrangement, ça, c'est comme si ça n'existait pas.
Ah ben non, je suis pas d'accord. C'est qu'il nous faisait confiance, c'est-à-dire qu'il pensait, oui, que ce travail, on allait le faire nous.
Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire dans le discours de Jean-Luc. Hein. Non, oui, mais je suis d'accord que, oui, bien sûr, il faisait une totale acquis, confiance aux acteurs. Ouais. Absolument. Non, mais vraiment, je suis totalement d'accord. Hein. C'est-à-dire que mais lui ne faisait pas ce travail-là avec les acteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une totale confiance en l'acteur. À partir du moment, enfin, je crois que c'était aussi important sur les acteurs, c'est qu'à partir du moment où ils choisissaient un acteur. Et surtout à partir où c'était même l'acteur venait pour la deuxième fois dans un spectacle, c'était très souvent parce que cette idée de famille était très 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 forte. Il y avait une totale confiance dans ce qu'amenait l'acteur par rapport au texte, et d'autant plus sur ses textes.
Et ce que dit François est tout à fait juste. Je me souviens pas de conversation où, par exemple, on est vraiment essayé d'approcher un texte dans son ensemble. C'est-à-dire que il n'y avait pas une vision globale de la pièce, à part qu'on commence à découper en différentes sections et qu'on commence à structurer comme ça et à nos approches, enfin l'approche de Jean-Luc, celle des comédiens, était, je crois, vraiment celle d'un paysage dans lequel on s'engage, d'une route qu'on prend, sans savoir, en ayant une vague idée de l'endroit où on va, mais sans avoir précisément auparavant écrit et dessiné la carte. Donc il y avait une quelque chose qui est assez confortable, quoi, parce que ça demande à l'acteur d'être comme le voyage demande aux voyageurs, d'être disponible, d'être ouvert et d'être prêt à capter tout ce qui peut se, tout accident du paysage qui peut présenter de l'intérêt, quoi. Donc
par rapport à ta question, enfin, je vais pas m'éterniser parce qu'Elisabeth et Michel n'ont pas parlé,
mais
par rapport à la question, moi, il y a juste une chose qui peut vous intéresser, c'est que j'ai travaillé à 7 ans d'intervalle, donc j'ai commencé sur Hollywood, c'était dans les premières pièces, et là c'est vrai que c'était un jeune homme, il faut le dire, qui était un assez paumé par moment, qui était très seul, qui avait, bon, ses amis, ses piliers comme ça, mais des acteurs, et c'était bien parce qu'on avançait ensemble, mais on était tous un peu largouillés, quoi. Et puis on sentait bien quelqu'un qui au fond de lui connaissait toute sa richesse, mais il était là avec sa jeunesse, avec son apprentissage, avec sa fragilité. Et puis ensuite il m'a réengagé 7 ans après, et là j'ai trouvé un homme. C'était plus un jeune homme, c'était un homme qui s'était entouré d'une équipe, et c'est très important, parce que là, il avait trouvé vraiment un décorateur, les lumières, et tout d'un coup, on avait vraiment un metteur en scène avec une équipe. Et pour moi, et puis qui avait vraiment avancé dans sa méthode. Et là, j'ai vraiment pu voir la différence entre Hollywood et les solitaires, par exemple.
Non, ce qui est beau, c'est que à 7 ans d'écart, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce principe d'incertitude, d'ailleurs, dont on parlait ce matin dans les deux interventions, parlait de ça. Ce principe d'incertitude qui est au cœur de l'écriture, on le retrouvait finalement dans le processus du travail de répétition. C'est une sorte de continuité, ce chemin où on ne sait pas où on va, comme la phrase, on ne sait pas trop où elle va non plus, mais elle y va quand même.
Mais au fond, on sait où.
Mais on sait quand même où. Ce qu'on veut dire, ce qu'on va dire, ce qu'on va peut-être dire, ce qu'on a fini par dire, ce qu'on a déjà dit. Voilà, je fais du Lagarde sans le savoir. Voilà,
mais il faudra passer par ces 4 ou 5 formulations pour que ça accroche et que ça tienne.
Bon. Et Elisabeth, toi qui a joué donc finalement après, c'est dans le Jean-Luc metteur en scène de la maturité, si on peut dire. Hein. Enfin, le mot est un peu idiot, mais peu importe. Enfin, disons, après, c'est 7 ans d'âge. Hein. Voilà. Donc, dans ces trois spectacles, entre les solitaires et le Ionesco et le Molière, il y avait ce chemin-là, ce chemin comme ça, semé de cailloux incertains. Tu le sentais aussi?
C'est drôle. Par rapport à ce que disait Gilles tout à l'heure, il disait que Jean-Luc essayait d'alléger le plus possible quand il montait ses propres textes. Et moi, j'ai l'impression inverse. Pour le malade imaginaire, par exemple, c'est ce qui m'est venu
en premier à l'esprit, qui quelquefois montait poète-poète la galette, toinette-toinette, etc. Lui, je crois qu'il, en bon étudiant en philo, et il cherchait vraiment une lecture verticale de ce texte. Aussi à l'aune de sa propre histoire, évidemment, mais il l'a monté, d'abord, ne serait-ce que ça, tous les costumes étaient noirs, ça commençait quasiment dans l'obscurité, le lit du malade faisait furieusement penser à une tombe, et il avait une lecture, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais il avait mis en lumière plutôt la face sombre de la pièce que la comédie. Et il avait fait de la scène entre le frère et le malade imaginaire la scène centrale de la pièce, ce qui n'avait pas été vu jusqu'à présent. Je crois même que quelquefois cette scène est coupée, ou en tout cas fortement raccourcie. Donc il avait effectivement, c'est très différent d'avoir joué ses textes sous sa direction et les textes des autres, parce que... Gilles et Christine ont des souvenirs de peu d'indications, j'ai des souvenirs de flots de paroles, mais vraiment des détails spaghettis qui duraient des heures, nourris d'anecdotes, nourris de ses lectures, et le point le plus court pour aller d'un point, c'était pas la ligne droite, c'était vraiment le chemin le plus long possible pour aller d'un point à un autre. Donc effectivement, ça, c'est assez différent de ce qu'ont vécu ceux qui ont joué ces textes à lui sous sa direction. Je pense qu'il y avait aussi sans doute une pudeur d'auteur jeune, parce qu'il est mort à 38 ans, donc il n'a pas eu le temps d'être un vieil auteur assis dans la reconnaissance du public de son talent. Et puis aussi, je pense qu'il avait, sans jouer le côté pythonisme, mais la vision du fait que il aurait une vie courte et que sa vie continuerait après dans le théâtre. C'est un homme de théâtre. Il vit maintenant dans les théâtres à travers ses textes. C'est, au fond, pour les gens qui l'ont pas connu, c'est ce qui reste de lui, c'est bien ça. Donc, là encore, une lecture verticale du personnage et pas le contact direct avec la personne, qui fait que forcément c'est plus léger parce que on dit des conneries, parce que le quotidien est là. Là, on a vraiment presque le personnage qui émerge. Le personnage est très. Ça va aller en se magnifiant, je crois.
Oui. Oui, parce que hier on avait dans l'intervention de Jean-Pierre Anne faisait une sorte d'avant et d'après 95, qui est en fait avant et après sa mort. Mais ce qu'il n'a pas dit, ce qui est à mon avis central, c'est que ce qui meurt le 30 septembre 95, c'est le metteur en scène. Reste l'auteur. Et l'auteur, en plus de pièces alors inédites.
Et l'auteur est presque né à ce moment-là.
Voilà, c'est d'une certaine façon, il naît comme auteur. À ce moment-là, d'une certaine façon, et c'est là que commence sa seconde vie, enfin, bon, d'une certaine façon. Et donc là, parlons de cette seconde vie, là. Donc c'est là que Jean-Pierre Vincent arrive. C'est là que certaines Joanneau, par exemple, aussi, c'est des gens qui ont découvert l'écriture de Jean-Luc après sa mort. Et puis d'autres qui sont revenus comme Rancillac qu'on a vu hier, comme Olivier Pibon, etc. Donc Vincent, on a vu comment il dirigeait là, c'était assez étonnant. Est-ce qu'il, Michel, tu as joué souvent avec Jean-Pierre, tu le connais très bien comme directeur d'acteur, on le reconnaît très bien, sa façon de faire, etc. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien. Mais est-ce qu'il parlait de cette pièce comme il te parlait des pièces de Chartreux, par exemple, qu'il a pu le... Est-ce qu'il avait quelque chose de spécifique?
Oui, c'était tout à fait particulier, parce que quand on a lu la pièce, Jean-Pierre avait fait ce travail longtemps avant, lui-même, on n'y comprenait mais rien à la lecture. Il fallait 2, 3, 4 lectures pour y comprendre, parce que c'est tellement des discours multipliés, démultipliés, arrêtés, repris, des fragments, des positions de personnages. C'est pas des personnages, mais c'est un petit peuple, et donc on arrive à une choralité qui est tellement forte et tellement impliquée, les discours sont tellement impliqués les uns dans les autres, qu'on n'y comprend rien. Donc, les répétitions ont consisté à, pendant un mois, à être assis. C'est très dur pour un acteur de trouver ses marques en travaillant assis, à ne dire que le texte, avec dans sa structure musicale, que les mots, les trous, les mots, les discernements, chercher, comme fait Anne, là, je ne cacherai pas, mais il y a eu un mois de répétition assis, et après une série d'italiennes, italiennes, italiennes, italiennes. Et on s'est levé seulement quand les italiennes, c'est-à-dire quand le texte était su, quand le texte était ponctué, structuré, à ce moment-là, on s'est levé, et on a gardé quasiment la conformité, et on a dit le texte. Mmh. On avait vécu par la langue, on avait vécu les personnages. Jamais il s'est agi de questions d'anecdotes, de psychologisme, ou de, parce que ce sont des êtres, c'est ça qui est difficile, parce que c'est à la fois banal, et si on tombe dans la banalité, dans du psychologisme de « il a fait ci, il a fait ça », on se plante complètement et c'est inintéressant. Mais par contre, si on s'emplit de ça, et je crois que Jean-Pierre a été remarquable dans cette direction, parce que ça n'avait rien à voir avec toutes les autres pièces, bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Et donc, le succès de la pièce, alors on pourrait croire que c'est du boulevard, mais c'est jamais du boulevard, parce que c'est jamais, ça ne table pas sur des effets. Ce n'est pas un effet de langue, ce n'est pas un effet de jeu, c'est simplement la reconnaissance dans la difficulté d'être, dans les positions, que ce soit celle du pouvoir, celle des pauvres employés de la maison de la culture, et dans ces reconnaissances de pouvoir, c'est là où les gens rient. Mmh. Et dans la langue, justement, la difficulté d'être et de se dire.
Et est-ce que c'est une langue difficile, plus difficile à mémoriser que d'autres pour des acteurs ?
Oui, je pense.
Oui.
Je pense, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a eu pendant plus d'un mois que des italiennes. Parce que ce qui est difficile, c'est pas sur son propre texte. Ça, c'est déjà difficile. Mais savoir qu'il y a le voyage là, 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 et comme ça s'est dit plusieurs fois, à quel moment on intervient, en fonction de quoi, ça ne répond pas. Donc, il n'y a pas une suite logique. Il n'y a pas de suite logique, ça ne répond pas à ça. Ça vient brutalement. Et ce ne sont pas non plus des apartés. On pourrait jouer des apartés comme il existe dans le théâtre plus, disons, plus classique, plus repérable. Ce ne sont pas des apartés. Mais en même temps, il ne faut pas entendre ce que dit l'autre. On n'est pas, la personne n'est pas censée entendre. Donc c'est pour ça que c'est comme une œuvre musicale, répétitive, qui se répète mais qui n'est jamais la même, et en même temps comme du tatis. C'est du tatis dans la langue, c'est-à-dire c'est seulement dans la langue. Et c'est drôle parce que c'est du tatis dans la façon d'être là, mais de pas être là, et en même temps d'être dans du burlesque aussi. Mm-hmm. Parce qu'il faut rester dans du burlesque, autrement c'est sinistre. Si on fait que dire le texte, c'est sinistre. Mais c'est à partir de là que vient cette notion de burlesque. C'est comment ça se manipule, et surtout comment ça se fabrique. Ce qui est beau, c'est un exercice de fabrique du théâtre, comme on fabrique des décors, on fabrique de la langue, et on fabrique des personnages. Et ça, c'est jouissif.
Mm-hmm. François, par rapport à ça, ce que vient de dire...
Je suis vraiment complètement... Enfin, c'est-à-dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment complètement d'accord, et c'est vrai que... Enfin, c'est le regard que j'ai aujourd'hui sur son écriture, quoi, qui est très différente de celle que je pouvais avoir. Après, c'est, enfin, ce que disait Elisabeth aussi, c'est que je pense que Jean-Luc ne pouvait pas avoir. Il y a de la pudeur beaucoup chez lui, évidemment, mais je pense qu'il l'avait vraiment pas. Il y a une grande part de son écriture lui échappait. Alors, pourquoi il a persévéré, comment il a évolué? Ça paraît assez, et quand on sait toutes les difficultés, comment ça a été compliqué, comment, devant tous ces échecs, il a continué à écrire, et surtout à creuser un sillon d'une forme. C'est, pour moi, c'est une chose très incroyable, puisque il a été encouragé très fort, puisque premier texte qui a été monté en dehors de ses mises en scène qu'il faisait comme théâtre amateur. Il était même pas professionnel. On s'appelait professionnel, mais on n'était pas payé, donc c'était quand même limite en 81. C'est à la Comédie Française. Donc c'est vrai qu'il a pris un encouragement pour 10 ans, quand même. Voilà. Non mais, c'est un gros encouragement. Vous prenez un texte et il est monté le premier, même si c'est dans un petit théâtre, c'est la Comédie Française. Le premier rendez-vous, c'était avec Jacques Toja pour dire, cher monsieur Jean-Luc Lagarce, qui désirez-vous comme metteur en scène? Oui, mais par exemple, non, mais sur la France, dites-nous quels sont vos désirs, Monsieur Lagarce. Voilà, il avait, ben, je crois qu'il dit ça, il n'a pas su répondre. Donc, je crois qu'il y a un encouragement fort. Après, pour revenir quand même plus concrètement sur le fait que je pense qu'il pouvait pas justement lui voir tout ce que vous découvrez, de ce que chacun voit, c'est-à-dire cette espèce de profondeur, cette chose la plus petite de la vie, de la simplicité, et en même temps de la plus grande profondeur sur la question de l'existence de l'homme. Enfin, je veux dire, voilà. Donc ça, je pense qu'à un moment donné, en tout cas, je n'ai personnellement aucune, évidemment, en dehors de point de vue, l'avoir fréquenté pendant 15 ans, c'est le mystère reste totalement entier, et vraiment, j'ai beaucoup parlé avec lui, et vraiment, ça reste totalement entier de ce point de vue-là. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'était une volonté farouche de creuser, mais c'est exactement comme pour les acteurs, je crois. C'est-à-dire que je crois qu'il, comme les acteurs, tu expliquais comment on travaille avec la langue, comment il faut la creuser, la travailler, je crois que c'était un artisan de la langue, c'est-à-dire qu'il écrivait, quoi. Alors c'est l'écriture qui a amené l'écriture, dans des genres, dans des essais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait vraiment des choses qui sortent, qui soient fortes, et qu'il, même si on n'en voulait plus, il réinsistait. Mais je crois qu'il y a vraiment, moi, ce que je trouve, j'étais très touché parce que disait Jean-Pierre Vincent, pour moi, c'est vraiment ça l'écriture de Lagarce, c'est-à-dire qu'il offre aux acteurs, il offre aux spectateurs la création même dans la matière du geste du créateur. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout le travail de l'acteur, il est aussi créateur qu'il faut retrouver cette énergie, parce que c'est ça aussi l'écriture de théâtre, il y a une énergie dans le mot qui était l'énergie de Jean-Luc avec son stylo. Moi, je pense toujours à ça, c'est-à-dire quand même quand il dit « cacherait », je cache, il y a tout. Il y a non seulement le geste, la correction, mais il y a l'énergie, le remords. Enfin, on peut en parler sur une phrase. On pourrait en parler pendant une heure de tout ce qu'il peut y avoir dedans.
Oui. C'est exactement ce que disait Gruber quand il montait Bérénice. De toute façon, il y a un rapport, je trouve, Racine-Lagarce, ça c'est autre chose. Il disait aux acteurs, je me souviens, qu'ils voulaient entendre le bruit du stylo de Racine écrivant Bérénice sur scène. Que le jeu aurait été fort. Mais Jean-Luc, c'est exactement la même chose, je pense. Exactement ça. C'est-à-dire, si on perçoit, si on arrive à faire passer le geste de l'écriture même, on triomphe. Enfin, on est juste, quoi.
D'évidence, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on se dit, ça fonctionne, parce que de toute façon, c'est quand on entend cette écriture en essence.
Ouais. Et ce qui est beau aussi, c'est que dans certaines pièces, il en fait la dramaturgie, en fait. Quand il raconte une histoire du théâtre, c'est comme une sorte de miroir dans le miroir.
Oui, après, c'est quand même son sujet. Sans s'éloigner, parce que, juste pour finir là-dessus, c'est que, pour lui, la base, c'est pour ça que c'est important sur ce qu'on a dit sur la conscience. Pour Jean-Luc, le théâtre, aujourd'hui, il se trouve stupide, il comprend pas. Pour lui, c'est un non-sens. L'idée qu'on ne sait pas qu'on est au théâtre. Et pour le spectateur qui va au théâtre et qui fait semblant de ne pas savoir qu'il est au théâtre, pour lui c'était incompréhensible. Mais ça allait même plus loin. C'est-à-dire que pour lui, l'acteur qui ne sait pas qu'il y a un acteur, c'est-à-dire cette idée du quatrième mur, cette idée que c'est un monde et qu'on a des tripes ou tout ça, il trouvait ça vraiment pour lui totalement incompréhensible. Mais il le comprenait pas. C'est-à-dire cette idée qui dit, un acteur, il sait qu'il y a un acteur. C'est-à-dire, on va pas faire croire qu'on n'est pas des acteurs. Voilà. Donc la notion même. C'est pour ça que c'est infini, parce que la notion même du théâtre est au cœur même de la nécessité de son écriture.
Mmh. Et ça, bon, il y a complètement ça dans Nous les héros, Elisabeth. Et ça, on l'a vu hier soir, enfin on le voit chaque soir dans la mise en scène qui est présentée ici. Et donc c'est une pièce que tu as jouée avec Olivier Py, enfin qui finalement Olivier Py a réussi à accomplir le projet qu'avait Jean-Luc d'une certaine façon, enfin avec une partie de la distribution du malade imaginaire. Est-ce que Olivier Py dirige de la même façon quand il dirige des Claudel, Py ou Lagarce, c'est le même directeur d'acteur, ou est-ce que tu as senti des différences?
C'est un très vieux souvenir, à vrai dire. Il me semble qu'on était dans le Maelstrom c'était à peine un an après la mort de Jean-Luc, et ça a été une évidence pour Olivier de monter la pièce. Il fallait qu'il la monte. Alors, je ne sais pas si c'était pour perpétrer le projet de Jean-Luc, pas vraiment, puisqu'il a pris une partie, effectivement, de la distribution du malade, mais pas tous. Je crois qu'il avait besoin de monter un texte de Jean-Luc, parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire dans cette espèce de no man's land, avant que Jean-Luc devienne un des auteurs les plus montés de France, il n'y avait rien. Mm-hmm. Ça correspondait un peu... à 3h de l'après-midi, un vendredi saint, il y avait un silence et une nuit totale. Et puis, après, le travail de François et puis l'évidence de l'œuvre aussi a fait que les gens ont commencé à monter les textes de Jean-Luc. Mais c'est vrai qu'on l'a très peu joué. Au fond, nous, les héros, on l'a joué 17 fois, je crois. Et pour revenir à ta question, est-ce qu'il dirige différemment ? Non. C'est pas quelqu'un qui parle de psychologie du personnage et tout ça, Olivier, ça l'intéresse pas beaucoup. En soi, je pense qu'il se retrouvait avec Jean-Luc, comme l'ont dit aussi mes camarades et Michel. Il n'y a pas de direction d'acteur. Il avait une idée de scénographie avec Pierre-André Wetz très précise. Et là aussi, ce que je disais tout à l'heure par rapport à une lecture verticale du texte, eux, pour le coup, contrairement à la mise en scène de Guillaume, qui est comme ça, qui se lit comme une page de livre, eux ont vraiment monté la pièce à la verticale. Donc on jouait sur une tour de 3 étages, ce qui permettait cette simultanéité qui est, je crois, la difficulté de la pièce. Il y a 3 scènes qui se jouent en même temps. Donc eux, c'est la façon qu'ils ont trouvé de l'exprimer. C'était de le jouer littéralement sur 3 niveaux. Donc on jouait, il y avait quelque chose en bas, quelque chose au milieu, quelque chose en haut, les 3 choses d'une même importance. Après, c'était au spectateur d'être actif. Mais encore une fois, j'ai pas souvenir que ça a été différent, la façon dont il a... C'était difficile pour Olivier, je crois. Ce qui était difficile, c'est qu'il jouait dedans. Il jouait le rôle de Karl que Jean-Luc lui avait attribué. Et en même temps, il était à l'extérieur, il nous regardait. Donc il y avait... un acteur qui a bien voulu lui servir de grouillou, et puis il y avait François qui était là pour qui était là comme, je sais pas comment est-ce qu'on dit maintenant, un regard extérieur. C'est pas très gratifiant, mais enfin c'est bien ce qu'il a voulu être. Il a voulu être extérieur, il a été très respectueux du travail, il était là, voilà. Donc c'était important qu'il soit là, mais j'ai pas souvenir que tu aies intervenu voilà. Et puis oui, Olivier, il coupe beaucoup dans son propre texte, lui. Il est toujours prêt. Et puis, quand, comme il écrit pour nous, quand on lui suggère une légère modification, il est prêt à le faire. Oui, tu as raison, c'est nul. Paf, il barre et puis il fait chose que Jean-Luc donc ne faisait pas, apparemment. Mais couper, oui, il coupe beaucoup. Dans le Nous, les héros, il a pas coupé énormément, contrairement à ce qu'ont fait Guillaume et ses camarades. On a respecté l'ordre des scènes, on a coupé vraiment quelques répliques, mais sinon, la structure de la pièce a été gardée telle quelle, et voilà. Est-ce que ça répond ?
Absolument. Bon. est-ce que c'est des textes, les textes de Jean-Luc, les têtes d'acteurs sont encombrées de textes, bien sûr, mais est-ce que les textes de Jean-Luc...
On vit le disque dur, hein, de temps en temps. Mais,
Est-ce que ça reste imprimé sur le disque dur d'une façon ? Est-ce qu'il y a des choses qui restent ?
Oui,
est-ce qu'il y a des répliques qui vous accompagnent, par exemple ?
Oui, oui. On en retrouve. Il y a les répliques récurrentes. Comme tout auteur, j'ai l'impression qu'il repêche dans son propre propre vivier des petits poissons comme ça de paroles qui tient à remettre. Donc il y a des choses qui se retrouvent dans l'écriture de Jean-Luc, dans l'écriture d'Olivier, dans l'écriture de Valère Novarina. Voilà, il y a des choses qui se retrouvent, et puis quand on en a joué une fois et qu'on en voit d'autres, qu'on en joue d'autres, on a l'impression de parler la langue. Je pense que ça se confirme chez Jean-Luc. Quand on a joué une pièce de Jean-Luc, après on en joue une autre, on en voit une autre, on se dit, ah oui, effectivement, je connais cette langue, je l'ai parlée une fois, donc elle est inscrite en moi. C'est vrai pour tous les auteurs contemporains, je pense. Mm-hmm. En tout cas, pour avoir vécu l'expérience, c'est vrai pour Valère Novarina. Il y a un avant, il y a un après. C'est vrai pour Olivier Py aussi. Et puis, Qu'est-ce que c'était la question?
Là, j'ai fait un vrai détail spaghetti. Oui, le disque dur. Quand j'ai vu Nous les héros, dans la mise en scène de Guillaume Vincent, je me suis dit, je me souviens pas d'une seule réplique. Et puis quand je l'ai entendu, ça m'est revenu. Petit à petit, ça a émergé comme un sous-marin qui sort de l'eau. Ça vient d'un coup, il y a une ombre qui apparaît, puis d'un coup, ouf, ça apparaît. Et oui, je m'en souvenais, oui.
Et ça contamine vraiment quand on travaille une pièce ou quand on fait travailler une pièce à des étudiants. Ou d'ailleurs, je voudrais parler un peu de ça, du rapport des jeunes à l'écriture de Jean-Luc. Ça contamine, on se met tous à faire du Lagarde comme toi tout à l'heure, sans en avoir l'air. Donc il y a vraiment une invention, c'est ça qu'il a imposé vraiment un style, c'est peut-être pas le mot, mais...
Non, mais je crois que le mot, c'est langue.
Une langue, oui.
C'est-à-dire
une
que vous pouvez voir, je sais pas, 30 secondes de Lagarce ou une minute de Lagarce, et sans savoir que ça en est, bien sûr, et l'identifier, enfin...
Oui, d'ailleurs, moi, le spectacle hier soir, on voyait bien quand c'était de Lagarce.
L'identifier immédiatement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une langue, Lagarce, c'est-à-dire que c'est peut-être moins... un texte qui a été celui des personnages qui ont pu être les nôtres à un moment de notre carrière de comédien, mais c'est plus une langue, et cette langue, elle contient en elle-même, enfin je pense que c'est ce procédé de enfin qu'on peut peut-être préciser un petit peu, c'est je me lance dans une narration et au 3e ou 4e mot je suis obligé de reprendre depuis le début, parce que, alors, c'est un problème de temps, ou c'est un problème de... Et ensuite, je peux continuer. Mais à la fin, il faudra probablement que je revienne. Donc, c'est cette espèce de... C'est une langue qui peut pas se développer de façon linéaire. Elle a besoin, pour s'alimenter, d'aller-retour. Et c'est quelque chose qui est complètement repérable, parce que c'est une respiration, probablement parce que c'est une respiration du texte qui est très particulière. Et une langue, c'est d'abord une respiration avant d'être un véhicule de sens, quoi.
Puis je peux ajouter peut-être j'aime bien l'image, Hervé Pierre a beaucoup joué des textes de Jean-Luc, et il a une image que je trouve très belle. Il dit, en fait, le texte, il va comme ça, ça va, on le lit, on voit le sens où ça va comme ça. Et ce qui est difficile pour l'acteur, il disait qu'il faut accepter, c'est que non seulement, donc, il faut savoir où on va, c'est-à-dire le sens, mais le problème, quand on dit le texte, c'est comme des petits canaux, c'est-à-dire que le texte, pour l'acteur, il fait toujours ça. Et il faut faire confiance à l'auteur qui va vous ramener, parce que sinon, il va toujours à droite ou à gauche, il va jamais à l'endroit où vous allez. Et il dit, ce qui est beau avec Lagarce, c'est qu'il vous prend par la main et vous ramène. Mais vous, dites, je vais jamais retomber sur mes pattes, quoi. Enfin, je vais jamais arriver à revenir dans le sujet, parce que il faut le jouer, mais complètement où emmène l'auteur. Parce qu'en fait, il dit, on joue toujours à droite ou à gauche, mais jamais où on veut aller.
Oui, il faut s'égarer.
Voilà, totalement. Voilà, c'est égarement.
Du cœur et de l'esprit. On peut demander s'il y a des questions, peut-être. Parce que je sais pas si on a. Il y a beaucoup de temps, quoi.
Il y a un film ou pas?
Il faut.
Il y avait l'idée de présenter le film de Jean-Luc après. Oula. C'est à quelle heure? Une demi-heure de retard? Une demi-heure.
Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle aux acteurs ici présents? C'est le bide.
Juste peut-être pour dire un petit mot, si on parlait d'Hollywood, il y a un grand acteur immense qui a beaucoup, je crois, aussi aidé Jean-Luc dans sa réflexion. C'était Daniel Émile Faure, qui a été aussi un acteur qui était très présent dans l'histoire de Strasbourg, vraiment, donc qui vient de décéder, et qui était quand même pour Jean-Luc, par exemple, c'est quelqu'un qui a évidemment lutté très fort avec et contre Daniel dans le travail, mais c'est quelqu'un qui lui a énormément aussi apporté l'expérience. Et pour revenir sur la confiance, c'est que c'est des personnalités comme Daniel Émile Faure, je pense que si vous voyez la photo dans un journal, même si vous le connaissez pas, vous verrez qui c'est. C'est quand même un acteur immense qui avait travaillé avec Fellini et qui a dit à Jean-Luc, quand Jean-Luc a parlé du texte parce qu'il l'avait croisé, mais comme spectateur, il avait défendu un de ses textes à Théâtre Ouvert en disant, mais ce jeune homme, c'est tout à fait intéressant. Et quand Jean-Luc lui a proposé de venir jouer au mois de janvier, à Besançon, en lui disant, mais oui, ça se joue quand? Une semaine, je crois, non?
Oui.
Ça se joue 5 fois à Besançon. Et Daniel Émile Faure qui est venu à Besançon.
Il a fait moins 23.
Il a fait moins 23 cette année-là. Et je trouve que c'est aussi des moments extraordinaires, ça. C'est-à-dire que, et je crois pour nous tous et pour Jean-Luc très fortement, c'est qu'un homme éminemment, immense acteur, c'est quand même un acteur qui a travaillé avec l'immense metteur en scène, une histoire du théâtre énorme, qui travaillait évidemment avec Patrice Chéreau, qui a dirigé Patrice Chéreau. Et qu'un acteur comme Daniel fasse confiance à Jean-Luc, c'était pour Jean-Luc aussi, je parle sur les 10 ans en dehors même du résultat, c'est-à-dire c'est que tout à coup c'est quand même aussi, on parle souvent des metteurs en scène, mais je profite aussi des que c'est une table où il y a des acteurs, c'est de dire aussi que c'est aussi beaucoup les acteurs qui portent les langues et souvent beaucoup plus en amont que les metteurs en scène. Et ça, je trouve, c'est vraiment important. Et enfin, c'est juste un petit mot pour dire que il n'a pas été tout seul, Daniel, mais Daniel a été, à l'époque, en tout cas, c'est sûr, le plus grand acteur, vraiment un des plus grands acteurs français qui est venu à passer 3 mois à Besançon. Et bon, après, Jean-Luc était obligé de manger avec lui. C'était midi et soir. Non, voilà, midi et soir, voilà. C'était le contrat. Et voilà, donc il racontait des anecdotes, voilà. Et c'est comme Jean-Luc, après, on peut plaisanter un peu, mais il racontait un peu souvent lui-même.
Et en plus, Émile Faure, c'est un acteur, c'est pour ça aussi qu'il a, les metteurs en scène avaient souvent peur de l'engager, parce qu'il était très exigeant, très tatillon, et donc il a posé beaucoup de questions à Jean-Luc, en disant, c'est vous le papa du texte, expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire ça. Et donc Jean-Luc était dans un sens acculé à parler de certaines choses. Il aurait peut-être pas accepté que d'autres acteurs le disent, mais Émile Faure, c'était quand même bon là, pour lui une grande sorte de diva, comme c'était la diva. Donc il, et après, ça lui a beaucoup servi, ça. Et je sais, pour avoir parlé comme ça avec Émile Faure il y a quelques mois de Jean-Luc, c'était quelque chose qui était évident. Il y avait aussi, de la part d'Émile Faure, une énorme affection pour les textes de Jean-Luc et pour la personne de Jean-Luc. En fait, ils ont joué, et puis après, vous savez que le dernier texte de Jean-Luc, Lulu, Émile Faure était dans la distribution. Et il a préféré, après la mort de Jean-Luc, ne pas poursuivre, parce que c'était trop violent pour lui, trop douloureux. Mais il était aussi là. Il y avait une sorte de fidélité aussi qui est restée jusqu'au bout, quoi.
Oui, moi je voulais juste ajouter pour... On m'entend ? Qu'on ne reste pas sur l'idée d'un bide. Hein. Je dis, je crois que s'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez été tous très clairs, justement.
Non, je dis moi, bide. J'avais... Je dis bide parce que c'est des acteurs qui sont autour de moi. C'est une plaisanterie très mauvaise, évidemment. Parce qu'elle aussi fait un bide, alors.
J'avais précisément préparé une série de questions à laquelle vous avez tous répondu. Donc, je trouve que c'était pour ça très, très intéressant.
Voilà. J'ai que des bavards. Dans le flot de paroles.